1, 2, 1, 2.
Est-ce qu'il faut que je l'accroche?
3, 4. Tasting bacon.
Testing en anglais. T'es détestable, toi. OK, j'avais distribué une feuille la semaine dernière. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas reçu cette feuille-là? Il y en a quelques-uns. Ben, écoutez, je vais tout simplement la relire pour vous mettre au courant la nature de la lettre, là. OK, chers amis, c'est daté de la semaine dernière. Après ce qui a semblé être un long périple, nous voilà maintenant face à un nouvel embranchement dans le parcours que Dieu a tracé devant nous. Comme vous le savez, le conseil de l'Église a été mandaté de faire la recherche d'un ouvrier à temps plein, un pasteur. Après les recherches, les prières, votre conseil est maintenant en mesure de vous présenter un candidat. La famille Corbeau s'est joint à nous depuis septembre 2010. Vous avez eu plusieurs occasions déjà de leur parler, de les rencontrer, de les avoir vus à l'œuvre. Le conseil désire proposer la candidature de Timothée comme pasteur de notre Église à la prochaine réunion d'affaires générales qui aura lieu le dimanche 6 février 2011 prochain. Tous les membres pourront alors se prononcer par vote sur cette proposition. Alors, le but de cette lettre, c'était de vous aviser la proposition du conseil, mais aussi, on voulait, avant de faire ça, d'avoir cette session d'information-là, donner l'opportunité à Liliane et Timothée de nous raconter un peu leur témoignage, leurs croyances, la vision pour la région aussi. Et ça vous donne aussi l'opportunité à poser des questions. Alors, c'est vraiment une session d'information avec l'occasion pour vous de poser les questions. On va aller probablement, on a commencé un petit peu plus tard, là, comme on le fait d'habitude. On va probablement aller jusqu'à au moins 12h15. Alors, patientez un peu pour le dîner aujourd'hui. Et si jamais on voit qu'il y a trop de questions, on a toujours dimanche prochain pour la suite, si on a besoin. OK? Ça va? Fait que là-dessus, sans plus tarder. Si vous avez des questions aussi au conseil à poser, je pense que tous les membres du conseil sont ici. Alors, vous pouvez le faire aussi. Mais avant, on va laisser la parole à Timothée et à Liliane pour s'introduire formellement.
Je vais commencer. Je vais essayer de ne pas trop répéter ce qu'on a écrit dans le petit paragraphe, là, une sorte de biographie courte. Là. Alors, j'ai 29 ans, je m'appelle Timothée Corbeau, je suis né en France, dans une famille chrétienne, je suis le dernier de trois enfants. J'ai donné ma vie au Seigneur assez jeune, suite à l'événement concret, c'était que j'ai entendu une étude à l'école du dimanche qui, dans les mots que je pouvais comprendre, m'expliquait le salut. Et rentré chez nous, je discutais avec ma mère et elle m'a expliqué ça encore, je me suis converti de cette manière-là. J'ai grandi très proche de l'Église, c'est-à-dire que j'allais souvent à l'Église. Ma famille était impliquée. J'ai grandi d'une manière assez typique. Là. On avait Awana aussi, les réunions, tout ça. Quand j'ai été capable, j'ai suivi l'influence de ma mère surtout et j'ai commencé à servir dans la mesure de mes capacités, surveiller les petits-enfants, ensuite un peu plus grand, la chorale, les groupes de jeunes et tout ça. Quand j'étais ado, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Je voulais trouver un travail, j'avais des ambitions, ça marchait bien à l'école, que j'avais des grandes ambitions, il n'y avait pas de limite pour moi. Là. Les seules limites, c'était qu'est-ce qui marchait plus ou moins bien à l'école, fait que je cherchais des grosses carrières, etc. Et puis, j'ai utilisé plusieurs événements, plusieurs circonstances pour me recadrer un petit peu. Un des points tournants, c'est que j'ai un de mes amis que je voyais, il avait 2 ans de plus que moi, je le voyais comme un modèle dans l'église, puis il avait un avenir très prometteur dans ses études, et puis il est venu dans l'église un jour, il a dit, moi l'année prochaine, priez pour moi, je m'en vais à l'école biblique, parce que je veux apprendre à connaître la Bible un peu plus, je veux apprendre à connaître Dieu un peu plus, pour une année, fait que c'est ça que je m'en vais faire l'année prochaine. Moi ça m'a frappé parce que, premièrement je le voyais comme un modèle, ce gars-là, je voulais l'imiter, je voulais être comme lui, puis si lui, qui avait un avenir prometteur à l'école, puis que dans mon esprit, c'était le gars cool qui avait réussi à faire ce qu'il voulait faire dans sa vie. Là. Si lui, il estimait que c'était une bonne idée de prendre un an, puis d'étudier la parole de Dieu, de se rapprocher de Dieu, ça a commencé à trotter dans la tête. Puis petit à petit, avec différentes choses, cette idée a mûri assez, puis avec mon implication à l'église locale, je commençais à avoir un désir grandissant de servir à l'église d'une manière ou d'une autre. Au début, une de mes premières idées que j'avais eues, qui a été concrète, c'est que je voulais partir missionnaire n'importe où, à l'autre bout du monde. Je suis un gars aventurier, j'aime ça les défis, puis les nouvelles affaires, fait que je me retrouvais quelque part, un pays bizarre, puis être missionnaire là, ça me semblait être une bonne manière de... Je parle pas d'ici, là. Non, 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 j'ai dit ma première idée. J'ai pas fini mon témoignage. Fait que... Et finalement, j'ai fini mes études préuniversitaires. C'était à peu près l'équivalent du collège ou du cégep. Puis je suis parti, moi aussi, à l'école biblique. Mon ami était allé à New York. Puis il m'avait dit, il y a une école au Québec aussi. C'est la même affaire, mais c'est en français. Puis à l'époque, j'étais pas assez fluide en anglais pour ne pas perdre de temps là-bas. Fait que je suis venu à Sherbrooke à cause de ça. Puis mon idée, c'était, rendu à ce point-là, ça avait progressé assez dans ma tête que je voulais servir dans l'église. Je voulais servir le Seigneur à temps plein, c'était ça que je voulais faire. Je voulais pas poursuivre autre chose, pas parce que c'est mieux ou moins bien, mais c'est vraiment le désir qui grandissait dans mon cœur. Et mon désir à ce point-là, c'était d'étudier la parole, de faire des études pour préparer cet avenir-là. Mais me connaissant, et encore plus à l'époque, même encore aujourd'hui, je suis quelqu'un d'impulsif, qui embarque dans des nouveaux projets, qui aime les nouvelles affaires, mais le défi, c'est de garder la cadence, puis d'être persévérant, puis de finir les choses. Fait que je me suis dit, je vais pas faire ça avec les études bibliques. Je vais commencer avec une année, puis si je vois que c'est la bonne chose, puis que c'est vraiment ce que je veux, si ça confirme mon désir, alors je vais m'embarquer dans quelque chose de plus long. Puis Bethel servait à ça. J'étais à Bethel pour ça. Prendre une année, puis tester ma conviction, tester à quel point je voulais faire ça ou pas. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, Liane et moi. L'année suivante, moi, à ce point-là, je pensais aller à Bethel puis revenir en France après. Je n'avais pas jamais pensé m'établir au Canada. L'année suivante, j'ai été invité à me joindre à un programme d'évangélisation, un programme missionnaire d'une année. On a voyagé en Amérique du Nord, puis on évangélisait à travers la musique surtout. Puis Liliane, je vais te laisser faire ta partie là. Après ça, après cette année-là, Liliane et moi, on avait le désir de servir dans l'Église, puis de poursuivre notre formation pour servir dans l'Église. Alors on est allés tous les deux en France, dans une école biblique que moi je connaissais bien, qui était affiliée avec mon Église, mon pasteur enseignait là, puis... On est allé finir nos études là-bas, Liliane et moi. Et on a décidé ensuite, là entre-temps, on avait commencé à se fréquenter, on s'est fiancés, puis on s'est mariés en 2004. Et on a décidé, là, étant donné qu'on avait une famille d'un bord puis une famille de l'autre, il fallait qu'on choisisse. Là, l'Atlantide étant plus là, on ne peut pas juste rester au milieu, il faut qu'on aille soit en France soit au Canada, là, comme de raison. Et qu'on a décidé de venir ici. Puis on s'est installé à Gatineau, la ville où Liliane a grandi. On a commencé à s'impliquer à l'église. Moi, quand je suis arrivé, évidemment, mon désir, c'était de servir dans l'église. C'est ça qu'on préparait depuis des années, mais je peux pas juste arriver puis dire, je vais servir ici, faites-moi une place. Ils me connaissaient pas du tout. Fait que, après avoir réglé les problèmes d'immigration, j'ai commencé à travailler à Ottawa comme prof de français. Et puis, en même temps, je m'impliquais à l'église petit à petit. Jusqu'à un point où on s'est assis ensemble avec le conseil. Ils m'ont demandé de considérer, de me joindre à temps plein à l'équipe pastorale là-bas. Ce que j'ai fait en janvier 2007, c'est à ce moment-là que je me suis joint à l'équipe. Et puis, là, j'ai servi, j'ai grandi avec eux autres, là, j'ai appris. Et puis, le reste, vous connaissez assez bien. Là, j'ai été approché par le conseil de Castleman pour considérer servir. Voilà, vous connaissez les termes de la suite. Fait que c'est là qu'on est rendu. Toi.
C'est tout.
Moi, j'ai grandi dans une famille qui croyait en Dieu. Mes parents étaient catholiques, se sont convertis juste un peu avant que je naisse. On est déménagé de Maniwaki à Gatineau quand j'avais 3 ans. Et puis, on s'est installé à l'église de Gatineau quand j'avais 3 ans. Je me souviens, là, comme depuis tout le temps, d'avoir été à l'église, d'avoir été à Wana, puis d'avoir toujours aimé l'école du dimanche, aimé apprendre des versets, puis connaître les choses de Dieu. Je me souviens que ma mère apprenait le temps un matin pour lire la Bible avec nous parce qu'on faisait l'école à la maison, là, puis à chaque matin, on ouvrait la Bible, puis on apprenait des histoires, puis j'ai toujours aimé ça. Je me souviens pas de quand j'ai accepté le Seigneur. Ma mère, elle m'a dit que j'avais autour de 7 ans, puis c'était dans le temps de Pâques, il passait les films de Jésus à la télévision, puis c'est comme ça que j'avais posé des questions à ma mère, pourquoi Jésus était mort, puis qu'elle m'avait expliqué qu'il était mort à ma place sur la croix, puis tout ça. Mais je m'en souviens pas vraiment. Je me souviens, par contre, du cheminement qu'il y a eu après. Quand j'ai fait l'école à la maison jusqu'en cinquième année. En sixième année, je suis rentrée à l'école, puis c'était un peu difficile d'être confrontée à la réalité du vocabulaire des enfants autour de moi, puis de plein de choses que je connaissais pas. C'était comme un peu un choc. Puis en rentrant à l'école, je m'étais dit, ah, moi, je vais parler de Dieu, puis je vais inviter tout le monde à l'église, puis j'étais assez gênée, là, puis j'aimais vraiment pas ça, être comme devoir débattre avec les autres de qu'est-ce que je croyais, puis devoir répondre à leurs questions, surtout quand il y en avait plusieurs devant moi. Fait que c'était plus facile de juste arrêter de dire que je croyais en Dieu, puis tout ça. Fait que ça a été un peu la voie de facilité que j'ai pris pour les années qui ont suivi. J'ai juste arrêté de dire que j'étais chrétienne parce que c'était comme ça que c'était plus facile. Fait que j'avais vraiment une vie à l'église puis une vie différente à l'école. J'étais pas vraiment différente des autres personnes à l'école, puis c'est comme ça que ça a fait ça jusqu'à l'âge de 14 ans. Et puis le Seigneur m'a repris par plein de choses dans cette année-là. L'année de mes 14 ans a été vraiment formateur pour plein de choses. Mon pasteur prêchait dans l'Apocalypse dans ce temps-là, puis un dimanche matin, il avait prêché sur Apocalypse 3, verset 16, qui dit « Mais parce que tu es tiède, parce que tu es ni chaud ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Puis ça m'avait vraiment travaillé, parce que c'est comme ça que je vivais, dans le fond. On pouvait pas savoir que j'étais chrétienne, puis j'étais pas un témoignage pour les autres. Puis c'est dans cette période-là que j'ai décidé de remettre ma vie au Seigneur, puis je lui ai confessé que, dans le fond, j'avais honte de Dieu publiquement, puis c'était pas bien. Il y a un dimanche matin, il y a un couple de missionnaires qui est venu donner leur témoignage à l'église. Ça arrivait souvent, là, à Gatineau, il y avait souvent des missionnaires qui venaient présenter qu'est-ce qu'ils faisaient, là, quand ils revenaient à tous les 4 ans, ils venaient donner un rapport de ce qu'ils faisaient. Mais eux le faisaient d'une façon spéciale. Les deux sont venus en avant, puis c'est encore comme ça qu'ils le font aujourd'hui, là. Les deux viennent en avant, puis chacun leur tour, ils parlent de qu'est-ce qu'ils font. Donc, lui, il parle du ministère qu'il fait avec les hommes, elle parle du ministère qu'elle fait avec les femmes, il raconte le coaching, puis elle a parlé de l'école du dimanche, puis ça m'avait vraiment frappé de voir la place d'une femme dans le ministère. C'est comme un peu la première fois que je réalisais qu'une femme pouvait avoir un rôle dans le ministère. Fait que je me suis dit, ah, j'aimerais vraiment ça, être utile comme cette femme-là est utile pour le Seigneur. Fait que c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais pour être utile, je devrais être formée avant, parce qu'il y a plein de choses que j'ai besoin d'apprendre pour pouvoir faire ça. Dans la même période, Parole de vie Bethel est venue présenter avec un groupe d'étudiants l'école biblique. Là, c'était les premières années que Bethel est... était devenu Parole de vie, là, fait qu'il faisait le tour des églises, puis il était venu présenter ça à la jeunesse. Puis moi, j'avais décidé à 14 ans que j'irais à Bethel en sortant du secondaire. Fait que 3 ans plus tard, je suis partie à Bethel. Un peu comme Tim, là, pour aller étudier la parole, puis je voulais aussi voir qu'est-ce que le Seigneur avait en réserve pour moi. Je me disais, je veux comme vraiment être formée pour te servir, Seigneur. Au début, je pensais partir missionnaire en Afrique. Puis finalement, le Seigneur a bien fait les choses, parce que après avoir fait 2 ans en France, je me suis dit que j'étais pas faite pour l'Afrique, là, comme changer de culture. Mais pas dans le sens que la France, c'est pareil, mais tout ce qui implique changer de culture, c'est vraiment... En tout cas, je m'adapte pas super facilement, là, fait que ça a été vraiment difficile. Mais le Seigneur nous connaît mieux que ce qu'on se connaît, là. Donc, je suis partie à Bethel. Pendant l'année à Bethel, un des professeurs enseignait aussi à l'école biblique à Québec. Puis, il nous en a parlé. C'était un programme de 4 ans. Puis, moi, j'ai décidé que j'allais continuer là-dedans. Je trouvais que j'avais comme goûté à l'école biblique, mais je trouvais que c'était pas assez. Puis, je voulais continuer. Fait que c'était comme la seule option au Québec qui restait, là. Fait que je suis partie à Québec cette année-là. Dans les plans, au début, Tim devait venir me rejoindre là-bas, après son année en Ontario. Mais finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Puis le Seigneur a mis à cœur à Tim de retourner en France. Fait qu'au début, ça voulait dire qu'on n'était plus ensemble. Mais finalement, il m'a invité à aller le rejoindre là-bas, puis j'ai apprécié d'aller en France pour plein de choses. Ça a été vraiment une formation à apprendre à...
Hein? La nourriture.
Ouais. apprendre à m'adapter à une autre culture, apprendre à... Il y a plein de choses que le Seigneur a travaillé dans ma vie, être loin de ma famille, loin de mes amis, le niveau d'études aussi, apprendre à gérer son temps. En tout cas, le Seigneur a travaillé plein de choses dans ma vie. Et puis, il y avait une formation pour les femmes pendant que les gars faisaient les cours de prédication. Nous, on avait des cours de ministère féminin. Puis, j'ai apprécié de pouvoir apprendre de femmes de pasteurs là, depuis des années qui venaient nous enseigner puis qui nous parlaient de c'était quoi le rôle d'une femme de pasteur, c'est comment faire l'école du dimanche, tous les ministères d'une femme dans l'Église. Après l'école biblique, on est revenu ici, beaucoup à cause de moi. On est revenu s'installer au Québec. Après notre mariage, j'ai travaillé un peu, puis quand les filles sont arrivées, ben, je suis restée à la maison. Puis Annelle est née en 2007, Mathieu en 2009, puis... c'est ça. C'était facile pour moi de revenir à Gatineau puis de m'impliquer dans l'Église parce que c'est l'Église où j'avais grandi. Je connaissais les gens, je connaissais les ministères. Fait que le Seigneur a comme ouvert des portes pour que je puisse comme travailler avec la jeunesse dans différents ministères avec Tim. J'ai aussi, je me suis occupée d'un groupe maison des filles. C'est les ados-filles qui venaient à la maison là, aux deux semaines pendant 4 ans. Là. Puis ça... J'ai vraiment apprécié de pouvoir travailler avec elle, les voir grandir, apprendre sur la parole, puis voir comment elles cheminaient dans leur vie. Et puis, je pense que c'est pas mal tout. Là. Si vous avez des questions, je vous demanderai.
Que, c'est pas mal ça pour le cheminement. Comment on est rendu où on est aujourd'hui là, c'est pour que vous ayez une idée un petit peu d'où on vient, c'est quoi notre arrière-plan, puis comment Dieu a dirigé jusqu'ici. Je crois que de part et d'autre, autant vous que nous, c'est la première fois qu'on fait ce genre d'exercice. Alors, il n'y a pas personne qui est ferré là-dedans. Si à ce point-ci, vous avez des questions, que ce soit de notre vie personnelle, nous en tant qu'individus, ou bien le travail pastoral dans l'Église, ou peut-être au niveau doctrinal. Je veux juste vous laisser l'occasion, si vous avez des questions, des choses qui vous tiennent à cœur, qui sont importantes, des choses que vous voudriez savoir et qui pourraient bénéficier l'Assemblée, là, je veux que vous ayez cette plateforme-là, cette liberté-là. Fait que, je ne sais pas comment on va fonctionner. Là.
Moi, je veux juste peut-être faire un pont. Premièrement, s'il y en a qui sont intéressés, c'est enregistré aujourd'hui. Ça va être commencé pour toi, si ça vous intéresse, pour leur témoignage. Il y a aussi le document, comme par exemple la confession de foi à Timothée, qui est sur le site web, si vous voulez la consulter. Ça demande à peu près 40 pages, qui explique un peu tout ce qui est sa confession de foi, finalement, doctrinal, etc.
J'ai aussi laissé une copie physique qui est ici, mais c'est mieux de l'emprunter que de la remettre parce que sinon elle va disparaître.
C'est ça, elle est dans le domaine arrière. C'est ça, le mot de passe, oui, c'est vrai, vous allez sur la section marge, dans les documents, puis le mot de passe, c'est un seul chemin, le chiffre 1, un seul chemin, un seul mot, un seul chemin, vous allez accepter les documents de l'Église. Ouais. Moi, je vais commencer peut-être par une question. Alors, c'est une période de questions, comme je l'ai dit, c'est interactif.
Oui.
Tu as parlé un peu de tes études, Timothée.
Oui.
Alors, tu parlais de l'État, tu parlais d'un séminaire en France, ça, c'est un programme de.
Ça prend de bac.
Un programme de bac.
Oui.
Et là, tu es en train de faire des études de deuxième cycle.
Oui, c'est ça.
Tu peux nous expliquer un peu ton cheminement au niveau études.
Oui.
Et ensuite, je laisse le plancher pour les questions.
Ok, alors rapidement, quand je suis arrivé à Gatineau en 2004, ça faisait 3-4 ans qu'on était dans les études, puis moi, par appétit personnel, je ferais ça tout le temps, là, mais à un moment donné, il fallait mettre sur pause un petit peu, puis aller dans le ministère pratique, là, faire le ministère, pas juste l'étudier. Là. Puis les premières années à Gatineau, j'ai mis une pause sur les études pour pouvoir me concentrer sur, premièrement, j'avais un travail à ce moment-là, puis aussi servir dans l'Église, le temps que j'aurais qui serve à ça plutôt que continuer d'autres études. Donc ça a été en pause pendant, ben, entre 2004 puis l'année dernière. Fait que, on parle de quoi, 5-6 ans, là, 5 ans peut-être. Là, avec Gatineau, j'étais là-bas à l'époque, là, on s'est mis d'accord pour que je recommence des études d'une manière suivie. J'ai pris des cours ici et là par intérêt personnel. Mais là, j'ai recommencé un programme suivi de deuxième cycle pour la maîtrise. Mon champ d'étude, c'est l'exégèse du Nouveau Testament. L'exégèse, c'est un gros mot, là, barbare, mais ça veut dire étudier le texte pour comprendre ce que l'auteur voulait dire au lecteur. Qu'est-ce que les lecteurs étaient supposés comprendre dans ce que l'auteur écrivait? Parce que des fois, on lit le texte, puis on n'est pas conscient du contexte culturel, du contexte historique, le vocabulaire, comment les gens le comprenaient à l'époque. En plus, c'est pas écrit dans la même langue qu'on le lit aujourd'hui. C'est autant d'obstacles qui nous empêchent de saisir peut-être tout ce que l'auteur voulait dire. Et moi, mon champ d'étude me pousse dans cette direction-là. Probablement que il va falloir que ça se rétrécisse, que ça se précise beaucoup, là, mais certainement que mon travail va se concentrer surtout sur le livre de Romains. C'est pas exactement ça, mais vous êtes un petit peu des cobayes dans ce sens-là. C'est-à-dire que, à la fois, je prêche ici, puis en même temps, ça me donne l'occasion d'étudier le livre. Parce que si j'étudie un autre livre en plus que je l'étudie pour les prédications, ben, ça me doublerait le travail. Fait que c'est une pierre de coup. Je veux être fidèle au texte malgré tout. Peut-être que dans 10 ans, je vous dirai, bah, après avoir fait mes études, j'ai une couple de choses que je vous ai dit qui n'étaient pas vraies, mais par la grâce de Dieu. C'est ça que je fais. L'engagement, en tout cas le rythme que je suis, c'est de dédier une journée par semaine à mes études. En ce moment, le cycle se fait avec Sembeck. Vous êtes sûrement familier avec Sembeck. Une journée par semaine, et théoriquement, la théorie, c'est que ce soit pour 7 ans. Donc, pendant 7 ans, ça me permet de ne pas me déconnecter de l'église locale. Je pourrais faire ça de la manière traditionnelle, partir 2 ans ou 3 ans dans un séminaire et revenir dans 2-3 ans. Mais là, ça me permet de continuer à servir l'église, de faire mes études en même temps que je suis les deux pieds dans l'église locale. C'est ça l'objectif. C'est ça. Qui c'est qui va briser la glace là? Oui, Michel.
Ok, probablement la première visite que vous faites ici, vous prêchez en tant que chose invité ou bien en tant que dans tous les lieux. Quelque chose qui m'a curiosité, c'était, je me souviens pas si tu avais pris le nom Père de l'Église, mais il y avait dans cette prêche dans le tous les lieux, il y avait Augustin et Calvin. Quels sont ces deux hommes-là pour toi? Et si ce sont les hommes de Dieu pour toi?
Ça commence plus fort que je l'attendais, là. Mais très bien. C'est très bien. Merci pour ta question. Augustin et Calvin sont des... Ben, Augustin, c'est un père de l'Église qui a vécu dans les années 300, si je ne me trompe pas, après la naissance de Christ. Je ne veux pas faire un historique sur deux bonhommes-là. Calvin, c'est un des réformateurs principaux qui a marqué l'histoire d'une manière très, très évidente. Là. Les deux hommes ont contribué à l'Église, ont contribué à l'histoire de l'Église, au christianisme. La réponse courte, c'est que les deux hommes sont des sources inspirantes, des modèles d'hommes de Dieu avec lesquels je ne suis pas toujours d'accord. Ça, c'est la réponse courte. Il y a des points doctrinaux avec lesquels je suis pas d'accord. Avec Augustin, avec Calvin, des fois les deux ont les mêmes sujets avec lesquels moi je suis pas d'accord. On n'aura certainement pas le temps, même si on restait toute la semaine, on n'aurait pas le temps de rentrer dans le débat du calvinisme. Encore une fois, la réponse courte, je suis pas calviniste 5 étoiles, là, comme on dit. Je suis pas arménien non plus, si c'est la question qui vient ensuite. Si vous savez pas de quoi je parle, c'est correct. On prendra un café ensemble. On peut juste pas perdre toute la journée là-dessus, mais... Et Calvin et Augustin, je suis convaincu, ont été utilisés par Dieu dans ce qu'ils ont fait. Et je suis convaincu aussi que les deux ont des fautes doctrinales, des choses avec lesquelles moi je ne suis pas d'accord, que je n'arrive pas à réconcilier avec la parole de Dieu. Mais je ne veux pas discréditer ces hommes-là pour autant. Dieu les a utilisés d'une manière évidente. Et Dieu était souverain quand il a permis que ces hommes-là agissent de la manière qu'ils l'ont fait. J'ai lu et je lirai encore et Augustin et Calvin. En étant conscient que ce sont des hommes imparfaits, avec les belles choses qu'ils ont dites et faites, et aussi, à mon avis, des erreurs aussi. Et je ne les recommanderais à 100%, c'est-à-dire sans aucun discernement, ni je les discréditerais en disant ne les lisez pas, ce sont des hérétiques, ni l'un ni l'autre. Est-ce que ça répond à la question ? Est-ce qu'il y a des choses plus pointues que tu voulais toucher ?
Oui. Donc, si ce sont des hommes avec une avare évidente, pourquoi retourner consulter ça ? Est-ce qu'il y a des hommes, par exemple, qui ont plus de crédibilité évidente que ces deux gars-là parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils ont des réformes, puis tout le tout ?
Le premier principe, c'est que je ne connais aucun homme qui n'a pas, à un moment ou un autre, fait des erreurs dans ce qu'il a dit ou écrit ou enseigné. Il n'y en a juste pas. En dehors de la parole de Dieu, il n'y en a absolument pas du tout. Et il faut qu'on trace la ligne. On a besoin d'exercer notre jugement pour tracer la ligne à un endroit, de dire, ceux-là, malgré leurs erreurs, sont quand même des gens qui peuvent contribuer et qui peuvent apporter quelque chose. Alors qu'eux autres, définitivement, manifestement, ils sont trop loin, ils sont trop écartés, il y a trop de problèmes, etc. Donc la question, est-ce que Calvin puis Augustin, à mes yeux, ont tellement véhiculé d'erreurs qu'ils ne devraient plus être des sources d'autorité ou des sources de référence ou des gens qu'on consulte et qu'on lit à cause de ça? Ma réponse est non. Ils ne sont pas discrédités malgré leurs erreurs. Ils ont contribué, ils ont écrit des choses qui, encore aujourd'hui, font figure d'autorité dans le domaine qu'ils ont écrit. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres choses qu'ils ont écrites avec lesquelles je suis, comme j'ai dit, pas d'accord. Il y a des questions doctrinales pour lesquelles je n'irai pas faire référence à Calvin ou à Augustin. Il y a d'autres questions doctrinales pour lesquelles personne n'a amené la réflexion ou n'a expliqué plus clairement que eux l'ont fait. Alors, on ne peut pas vraiment contourner ou... Il y aurait des conséquences, il y aurait un prix à payer de dire on ne fait plus référence à Calvin. Et un prix que je suis définitivement pas prêt à payer. Ça, c'est ma conviction. Et Jacques, puis ensuite, merci. Charles, excuse.
À part le fait qu'il n'y a pas de vacances comme pasteur, qu'est-ce qui vous attire ici?
Ok.
Ça, c'est la raison évidente.
Oui. Ben, c'est la raison pourquoi le conseil a fait la démarche. Une des choses, il y a plusieurs choses qui nous attirent dans une situation comme Castleman. Je connaissais l'église, on était venu quelques fois avant. La première motivation revient quand même au poste de vacances, c'est-à-dire que depuis toujours, depuis Kylian et moi, on envisage le ministère, on a un fardeau qui vient entre autres de notre séjour en France, de voir des églises qui désespèrent et qui prient, crient à Dieu pour avoir un pasteur et qui n'en ont pas. Et ça, c'est un fardeau qu'on a vraiment, Liane et moi. On est arrivé au Québec avec ce fardeau-là. On ouvrait le bulletin, puis c'était écrit, l'association prie 10 églises, pas de pasteur, puis nous, on regardait ça, puis c'est ça qui nous brûlait en dedans. C'est ça qu'on voyait comme un besoin, ça venait nous travailler, il y avait vraiment un désir de répondre à ce genre de besoin-là. D'un autre point de vue aussi, moi, en tant qu'ouvrier, en tant que pasteur, je suis quand même relativement au début. Je suis jeune dans le ministère, je suis jeune avec mes expériences. Et un contexte comme celui-ci me permet d'apprendre, de grandir, d'avoir des expériences un petit peu à tous les niveaux du pastorat. Quand on va dans une église un petit peu plus grande, avec une équipe plus grande, avec un plus grand nombre de personnes qui s'impliquent, il y a toujours une certaine forme de spécialisation. Il y a le gars qui... C'est un évangéliste. Essaye pas de faire ce qu'il fait. Il n'y a pas personne qui est capable de faire comme lui. Lui, c'est l'évangéliste. Puis, il se lève le matin, il pense juste à ça. Il se couche le soir, il a hâte de se relever pour recommencer. Il y en a un autre, c'est la prédication. Il y en a un autre, c'est la structure, l'administration, le coaching, la formation, l'enseignement. Chacun va trouver sa spécialité, puis performer, exceller dans ce qu'il fait. Et moi, même si un de mes plus grands fardeaux dans le ministère, c'est la prédication, un de mes plus grands désirs, ce que j'aime faire le plus, je veux grandir dans dans des domaines différents, puis expérimenter et dans un certain sens, je vais bénéficier beaucoup d'une expérience comme celle-là à cause de ce que ça m'apporte. J'ai aussi suivi le conseil de plusieurs hommes qui ont été au ministère de nombreuses années et qui disent une des expériences les plus formatrices qu'eux ont vécues, c'est de commencer le ministère dans une église plus petite même ils ont spécifié dans une église, peut-être dans un contexte plus rural, et de commencer là. De commencer là, puis de grandir, puis de voir comment Dieu nous dirige ensuite avec ce genre d'expérience-là. Et je ne suis pas meilleur qu'un autre, j'ai besoin de grandir comme les autres, j'ai besoin d'apprendre, d'essayer, d'expérimenter. J'ai dit au conseil, je vous dis la même chose aujourd'hui, si je suis pasteur ici, vous allez avoir entre les mains un gars qui est en train d'apprendre. J'ai pas 30 ans de ministère, j'ai pas implanté 4 églises, puis formé des pasteurs à l'appel, j'ai pas fait tout ça encore. Grâce à Dieu, s'il veut, j'aspire à ça, mais j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et je vais faire des erreurs, il faut que vous soyez conscients de ça maintenant, parce que je veux pas que vous soyez déçus plus tard et que je vous ai fait croire que je ferai pas d'erreurs, je vais faire des erreurs. Mais un contexte comme celui-là, pour moi, me permet de grandir et de répondre à un besoin qui nous tient à cœur. Lise, et puis ensuite Yvon-Pierre.
Sans préméditer, parce que c'est tout nouveau, ça fait 4 mois que vous êtes ici, mais j'ai eu la chance un petit peu d'interagir avec les gens, tout ça, et voulant être un pasteur dans un église. Est-ce que tu as eu la chance un petit peu d'observer un petit peu la mission, la vision que tu avais envie d'apporter à personne? Et j'aimerais te demander aussi, parce que tu as parlé que tu as le goût de
Mmh. Ok. Faire liste de mes forces, ça va être un exercice intéressant, mais oui, j'ai commencé à me pencher sur cette question de vision pour l'Église, puis de quelle direction on veut prendre, etc. J'ai commencé moi-même à me pencher sur la question, même si au bout du compte, j'aimerais qu'on fasse cet exercice le plus possible ensemble. Je veux pas que la vision de l'Église soit la vision de Timothée Corbeau. Même vous voulez pas ça. Je veux que l'Église, la vision de l'Église soit déterminée ensemble. C'est sûr que je veux donner une certaine structure, une certaine direction et tout ça, mais c'est pas moi qui va décider l'Église s'en va par là. C'est l'Assemblée, c'est les membres de l'Église. Je suis pas curé, je suis pasteur. Ça veut dire que Dieu a donné l'Esprit à tout le monde dans l'Église, à chaque chrétien. Puis ensemble, je veux qu'on travaille vers ça. Ça va prendre du temps, c'est un processus. Et honnêtement, l'administration, la structure, puis tout ça, c'est pas mes forces. Ça, c'est pas dans la liste de mes forces, là. Puis élaborer une vision, ça va être un défi pour moi. L'aspect poursuivre un processus organisé, etc. C'est la force à Liliane, là, davantage, la structure et l'organisation. Un de mes buts dans l'Église, et je crois que c'est en tout cas à date, jusqu'à ce que Dieu m'enseigne d'autres choses, pour moi la recette de l'Église, c'est ce que j'ai partagé à la jeunesse hier soir, c'est que on est tous membres d'un corps, on est tous une partie intégrante du corps. Ma vision d'Église, c'est pas le pasteur qui fait, puis les autres qui écoutent ou qui reçoivent, c'est pas du tout ça. Moi, mon but, c'est que, étant donné que Dieu nous a tous équipés pour faire quelque chose dans l'Église, pour servir dans l'Église d'une manière particulière, moi je veux encourager ça, je veux pousser dans cette direction-là. Si moi je faisais tout, il y aurait beaucoup de choses qui se passeraient très mal, premièrement. Il y a beaucoup de choses que je ferais pour lesquelles je suis pas du tout fait. Il y a d'autres choses aussi, au bout du compte je me brûlerais, puis dans 6 mois vous retourneriez à chercher un pasteur. Mais aussi l'autre chose, c'est que Dieu vous a équipé pour faire des choses que moi je vais pas faire. Et tout ce temps que vous êtes, Dieu vous a donné des capacités, des dons, des habiletés et même des désirs, des fardeaux de faire des choses dans l'Église. Et moi, je veux être celui qui permet ça, qui pousse ça en avant, qui l'encourage. Notre Église va être en santé autant que les membres sont en santé. Et ça veut dire à l'œuvre dans l'Église, des serviteurs dans l'Église, chacun d'entre nous. Le pasteur n'est pas le serviteur dans l'Église. On est tous serviteurs dans l'Église. Le pasteur a le privilège et la responsabilité de surveiller, de donner une direction, de promouvoir tout ça. Mais moi, l'objectif, là, si je pouvais le faire, c'est ça que je ferais. Mettre chaque personne à sa place dans l'Église. Pas dans le sens « je vous remets à votre place », mais j'essaie de formuler ça d'une manière plus prudente. Là. Mettre chaque personne à la place que Dieu lui réserve dans l'Église. Si vous me mettez en charge d'organiser d'organiser quelque chose qui demande de la structure de l'organisation, là, ça ne va pas bien se passer. Il y a des gens qui sont doués pour ça. Si on mettait quelqu'un qui est gêné, qui bégaye, qui a du mal à parler, à s'exprimer, qui a du mal à étudier, qui a du mal à lire, on le met lui à prêcher, on va avoir de la misère à l'église. On est tous équipés de manière différente pour servir selon ce talent-là. L'autre aspect, je ne pourrais pas exposer la vision ce matin, mais on a une mission que Dieu nous a confiée en tant qu'église, en tant que chrétien, mais en tant qu'église, en tant que communauté aussi, de faire des nations des disciples, de répandre la bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire juste faire du porte-à-porte puis donner des pamphlets, c'est pas juste ça. Et on doit ensemble déterminer une stratégie. Comment est-ce qu'on va faire ça concrètement? Comment est-ce qu'à Castleman, on peut mettre en pratique Matthieu 28? Comment est-ce qu'on peut mettre en pratique à l'effet des nations des disciples ici? Comment est-ce qu'ici, on peut faire ça? Avec nos défis, avec nos opportunités en tant qu'Église. Si on s'arrête à dire, ensemble, faisons des nations des disciples, premièrement, sûrement qu'on s'entend même pas tous sur c'est quoi un disciple. On s'entend même pas tous sur c'est quoi enseigner l'air à faire tout ce que je vous ai enseigné. Il faut qu'on se mette d'accord sur c'est quoi qu'on veut faire, puis comment on veut le faire et le faire ensemble. Si chacun tient la couverte de son bord, on sait ce que ça donne, pas grand chose, on reste sur place, puis on peut pas juste faire vivre, on peut pas juste faire survivre l'église, s'assurer que dimanche prochain il y a un autre culte, puis s'assurer qu'il y a quelqu'un qui va enseigner mardi qui suit. C'est pas ça l'objectif de l'église. L'objectif de l'église, c'est accomplir la mission que Dieu nous a donnée, de faire des nations des disciples, en commençant ici et aussi loin que le Seigneur va nous permettre de le faire. C'est ça la vision. Ça prend beaucoup de travail pour le mettre en place. Mais Sylvain, Excuse-moi, ils vont faire ensuite Sylvain, merci.
Ouais, moi, c'était ça ma question, mais en même temps, je vais en profiter pour d'abord dire que j'apprécie beaucoup votre implication dans l'Église. Dans le cours là, de temps que vous êtes ici, je vois des belles choses et j'apprécie énormément l'enseignement. Maintenant, la question peut-être que je vais formuler, parce que c'était ma question de savoir c'est quoi la vision que vous aviez, c'était par rapport, là ça vient de terminer. La jeunesse. Parce que t'es jeune, parce que t'es jeune. Et puis là, je me dis, ça tombe bien, il y a le nom de Timothée, Paul le dit, on a fait brise toi, on a fait bien. Mais comment est-ce que vous faites ça? Comment est-ce que vous préparez par rapport à l'Église, à l'attente de jeunes?
Nous étant jeunes, tu veux dire? Ou par rapport à la jeunesse dans l'Église?
Non, vous étant jeunes.
Comment est-ce que
vous faites ça, de venir dans une Église?
Puis d'être à notre âge, c'est ça?
C'est ça. Ouais.
Je ne sais pas comment aborder la question. Est-ce que... Le fait que je sois ici répond un petit peu. Est-ce que je trouve que je suis trop jeune pour être pasteur d'une église? Je suis assis ici, vous avez ma réponse. La réponse courte, c'est ça, finalement. Là. J'aime ça faire des réponses courtes.
Est-ce que tu dis par rapport au restant de l'église ou c'est par rapport à...
Non, je ne vois pas comment tu dis.
Ouais.
En fait, ça peut
commencer
ma question.
Laisse-moi répondre parce que c'est une bonne question. Puis je suis sûr que tu n'es pas le seul qui te la pose. Il y a plusieurs choses qui viennent en ligne de compte. La première qui me vient à l'esprit, c'est que je suis conscient des limites que ça pose, le fait que moi j'ai 30 ans, puis que certains d'entre vous, vous pourriez quasiment être mon père, là, quelques-uns, là, ou ma mère, ou en tout cas, je veux pas enfoncer le couteau dans la plaie, mais c'est la réalité pareille, tu sais. Je sais que ça pose des limites. Le jour où je vais venir chez vous, et ça va peut-être arriver malgré tout, et je prie Dieu que nos cœurs, d'un côté et de l'autre, soient disposés ce jour-là. Mais le jour où je vais venir, à votre demande ou pas, et qu'on va parler des difficultés dans la relation de couple, des difficultés dans élever les enfants, des difficultés dans des choses qui viennent avec l'expérience et l'âge et le temps, mes enfants sont jeunes, on n'a pas 30 ans de mariage, j'ai pas dealé avec mes enfants ados, ça c'est la réalité. Ça, on ne peut pas s'en défaire, c'est la réalité. Quand j'aurai 30 ans de mariage et que mes enfants seront grandis, mariés, auront des enfants eux-mêmes, j'aurai beaucoup plus d'expérience. Et peut-être jusqu'à un certain point, je le dis parce que je sais que c'est dans ma tête, là, peut-être même aussi plus de compassion pour les gens qui vivent ça en ce moment. Parce que je le sais, mais je ne l'ai pas vécu moi-même. Je n'ai pas souffert d'un ado qui me claque la porte au nez puis qui s'en va faire des niaiseries. Je n'ai pas vécu ça encore. Et je sais que le jour ça va arriver, ce n'est pas mon désir, mais Dieu va travailler mon cœur à ce moment-là aussi. Quelque chose qu'il n'a pas encore fait. Et d'autres domaines encore que je ne mentionne pas ici. Et que ça, c'est une réalité. Et ça, c'est aussi quelque chose que, collectivement en Église, vous avez besoin de prendre une décision à la lumière de ça. C'est pas mal, c'est pas péché, mais vous pourriez avoir un désir en tant qu'Église. On veut un homme dans la cinquantaine, dans la soixantaine, parce que ce qu'on recherche, c'est lui qui va l'avoir. Si c'est ça que vous cherchez, ne nous faisons pas du mal réciproquement. Je ne suis pas cet homme-là. Pas encore. Si c'est ça qu'une Église cherche, il y a des Églises qui cherchent ça. Je le sais très bien, j'ai parlé avec des gens comme ça. Et c'est correct, parce que c'est ça le besoin qu'ils ont, le besoin criant en ce moment, c'est ça. Je ne suis pas la personne pour remplir ce rôle-là. Ceci étant dit, la base sur laquelle je prévois exercer le ministère et le counseling, etc., c'est pas premièrement mon expérience. C'est la parole de Dieu. Il y a des principes d'éducation des enfants dans la parole de Dieu sur lesquels je m'appuie. La différence entre moi et quelqu'un qui a traversé tout ça, c'est que j'ai certains idéaux qui vont changer, puis que tout n'a pas été éprouvé face à la parole dans mon expérience. Mais l'autorité, c'est pas mon expérience. Une autre chose, je vais terminer avec ça parce que je veux pas traîner trop longtemps. C'est à la fois culturel et régional et historique l'âge à laquelle un pasteur arrive au pastorat. Il n'y a pas de normes à cet endroit-là. Il y a des gens qui sont devenus pasteurs à 17 ans. Vous n'auriez pas voulu choisir votre pasteur à 17 ans, mais il y a des gens qui ont fait ça. Et Dieu les a utilisés, ils ont marqué leur époque. Et Dieu les a préparés pour ça, à ce moment-là. Il y a des gens qui ont été pasteurs à 45 ans et Dieu les a préparés pour qu'ils soient pasteurs à 45 ans. Ils n'auraient pas pu être pasteurs avant ça. Et je ne dis pas ça à mon crédit. C'est Dieu qui travaille, c'est Dieu qui agit. La seule chose que je peux dire, c'est que la parole de Dieu dit à un homme qui avait à peu près mon âge, un peu plus jeune que moi encore, que personne n'ait pris ta jeunesse, c'est Dieu qui travaille. Je vais terminer avec ça. C'est une demande que je vous fais. Si c'est pour vous un obstacle trop gros à surmonter mon âge, et c'est correct, ce n'est pas un jugement là, agissez en conséquence. Je ne veux pas que pour les 5 prochaines années, on se batte parce que quand je dis quelque chose qui ne fait pas votre affaire, vous vous dites que c'est parce qu'il est trop jeune. Il faut que vous votiez en conscience parce que les prochaines années vont être déterminantes pour ce genre de sujet-là. Ok. Et sûrement que dans 30 ans, on aura cette discussion encore et j'aurai des choses plus intelligentes à dire. Sylvain.
Change pas l'évangile pour plaire.
merci. Je sais pas si c'est toi qui le fais. Oui, Marie Josée. Attendez, je vais vous le faire. Ok. Alors, ma semaine, une semaine typique, oui. Alors, une semaine typique, ça n'existe pas très souvent, là, ça change beaucoup, mais quand même, typiquement, je prends le lundi de congé, étant donné que la fin de semaine est très active en réalité, d'habitude, je prends le lundi de congé, ça peut changer, mais c'est ça typiquement, là. Les derniers mois, j'avais mon cours que je prenais pour mes études. Le mercredi matin, la dernière année et demie, j'avais un cours en ligne là, par Internet. Fait que j'étais assis là. Le mardi, je passais du temps à préparer ce cours-là. Maintenant que c'est un peu plus flexible, on se partage le mardi soir, surtout avec Sylvain. Donc, je prépare l'étude qu'on va faire. Pour vous donner un ordre d'idée, pour préparer une prédication, on parle d'environ 15 à 20 heures de travail pour préparer une prédication d'habitude. Dépendamment, il y a plein de choses qui viennent changer ça, mais bref, en moyenne, c'est à peu près ça. Ça varie chez les gens entre 10 et 25. Là. À travers ça aussi, il y a un petit peu d'administration. Dernièrement, on s'est penché beaucoup sur le site. J'ai aussi une semaine sur deux la jeunesse. J'enseigne à la jeunesse, organiser, coordonner des activités avec les jeunes aussi. À côté de ça, il y a d'autres questions sur lesquelles je me penche en ce moment qui me demandent du temps. Comme là, mardi soir, il va y avoir une formation pour ceux qui veulent devenir membres. C'est quelque chose qui doit être mis sur pied. Là, j'ai pas pris un dossier, puis je l'ai amené là. Il fallait le faire. La même question est en train de se poser en ce moment pour moi, pour ceux qui veulent prendre le cours de baptême. Différents aspects de la vie d'église qui doivent être préparés. Pour moi, c'est nouveau, alors ça me prend peut-être plus de temps que quelqu'un qui l'aurait déjà fait plusieurs fois. J'ai d'autres des lectures que je fais aussi, bien entendu, étudier la parole de Dieu, ça prend beaucoup de temps pour les prédications, comme j'ai dit. Typiquement, dans une semaine, on divise la semaine en 21 blocs, c'est-à-dire 21 portions de journée. Le matin, c'en est un, l'après-midi, puis le soir. Puis là-dessus, ça c'est une manière de faire qu'on avait adopté à Gatineau. L'église avait recommandé que les ouvriers prennent 7 blocs dans la semaine. Ça veut dire, admettons 3 blocs le lundi, la journée au complet off le lundi, puis dans la semaine 4 autres blocs. S'il y a une soirée où je travaille pas pour l'église, ça c'est une soirée off, peut-être le samedi après-midi, le dimanche après-midi, ça c'est des blocs qui vont être mis à part, parce que si je fais pas ça, je vais remplir ma semaine au complet, t'sais. Je vais visiter quelqu'un le soir pendant un café, je vais aller rencontrer un jeune avec lequel il faut que je m'assoie puis jaser, préparer quelque chose, puis la semaine a disparu, j'ai pas vu ma famille. C'est déjà arrivé. Alors on a mis quelque chose en place, puis on essaye de s'en tenir à ça. C'est pas la loi d'aimer des perses, mais c'est un bon guide pour être raisonnable dans ce qu'on fait, à la fois pour l'église, puis à la fois pour la famille. La pire chose qui arriverait, c'est que je néglige ma famille, dans quelques années, je serai plus capable de servir dans l'église. Alors ça, c'est la première partie. La deuxième, pour savoir ce que je veux prêcher, la première chose, c'est que prêcher un livre par exposition, comme je fais avec Romain en ce moment, bah, c'est facile. Je ne me demande pas ce que je vais prêcher dimanche prochain, je prends la section qui suit, puis on y va. D'un livre à l'autre, il y a plusieurs choses qui peuvent venir me diriger vers un livre ou un autre. Et ça va arriver aussi que je ne ferai pas de cette manière-là, un thème ou quelque chose. Je peux voir, admettons, un besoin dans l'église. Il y a un domaine où des gens qui ont posé des questions ou des lacunes que je peux voir qui seront répondues par tel livre, admettons. Ou bien j'ai été Vraiment au bout du compte quand même, ça se fait comme tu l'as mentionné dans la prière. Je prie que Dieu dirige et qu'il m'amène vers le livre qu'il veut que je prêche. Bien souvent, ça va se passer. La plupart du temps, ça se passe que dans les mois ou les semaines qui précèdent la décision, de plus en plus, je vais lire des choses dans un livre qui vont vraiment me toucher, puis qui vont être significatives, qui vont revêtir une importance particulière, genre un fardeau qui va se développer, un désir qui va se développer pour ce livre-là. Et puis c'est vers là que je vais aller. Ça peut être changé, comme j'ai dit, par un besoin que je vois dans l'Église. C'est surtout ces choses-là qui vont déterminer ce que je prêche. Romains, je l'ai expliqué tout à l'heure à un frère, j'ai médité pendant plusieurs semaines sur Romains 12, 1 et 2, puis j'ai prêché tout le livre à cause de ces deux versets-là. Ça me brûlait tellement de prêcher ces deux versets que j'ai commencé une série à Gatineau. J'ai prêché Romains 12 à 16. Arrivé à la fin du livre, j'ai dit, ben, ce serait peut-être bien de voir ce qu'il fait au début. Fait que j'ai recommencé à zéro, puis c'est comme ça que je suis arrivé à prêcher Romains 1. C'est là que je suis arrivé ici. Fait que... Et il peut aussi y avoir des gens qui disaient, on aimerait tellement ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu prêcher le livre de Jacques, admettons. On veut, une dernière affaire, c'est qu'on veut prêcher tout le conseil de Dieu, comme Paul dit. Et dans les années qui vont venir, je ne veux pas juste toujours prêcher mes dadas à moi. T'sais. J'ai beau être passionné par, admettons, les épîtres pastorales, je ne veux pas prêcher les épîtres pastorales à répétition, mais jamais prêcher ailleurs, parce que ce ne serait pas être fidèle à la parole. T'sais. Je veux prêcher toute la parole de Dieu. Et ça aussi, c'est indéterminant. C'est-à-dire que je ne reprêcherai pas Romains dans deux ans. Parce que, à moins que quelque chose de spécial arrive, il y a d'autres choses que la parole de Dieu veut nous enseigner. Puis moi, je suis là pour ça. C'est ça. Quelqu'un d'autre? Oui, Gaspard.
Oui. Moi, j'ai évolué dans une famille chrétienne aussi, donc ça fait 40 ans. J'ai évolué dans oui, je suis vieux.
Mais il est plus jeune que mon père. Ça règle la question. On a conclu ça hier soir. Avec plaisir. En fait, avec plaisir et crainte et tremblement, mais avec plaisir quand même. Une des choses.
Ouais.
Eschatologie, c'est tout ce qui a trait aux choses à venir. Tout ce que la Bible dit sur ce qui s'en vient. Les prophéties, la fin des temps, dans quel ordre les choses se passent, s'il existe à peu près autant de possibilités qu'il existe de personnes. C'est ça, on va-tu être là pour la tribulation, on est-tu enlevé avant, est-ce que Satan est-tu déjà enchaîné, ou bien est-ce qu'il ne l'est pas encore, les mille ans, c'est-tu littéral, ça ne l'est pas, je vous ai donné des mots de tête pour les prochains mois, là. C'est tout ça qui est au cœur. La première chose, c'est que je ne suis pas vite à aller prêcher les prophéties, parce que c'est difficile, ça demande à la fois beaucoup de travail de recherche, de discernement, il faut jongler avec beaucoup, beaucoup de manières de lire ces passages-là. En ce qui me concerne, moi, j'aime pas ça jouer à la cachette, là. Moi, je suis pré-mille, pré-trib. Si encore une fois, vous savez pas ce que ça veut dire, on prendra un autre café. Moi, j'aime ça, le café. Fait que... mais l'autre chose que je dis avec ça, c'est que c'est pas irrévocable et je suis bien correct avec les gens qui ont d'autres positions. C'est pas, pour moi... un sujet de division. Si vous venez me voir et vous me dites, moi j'ai une position différente, vous pouvez encore faire partie de l'église et être mon ami, puis on va encore travailler ensemble. Il n'y a pas de problème. Prendre des cafés avec moi. Même prendre des cafés avec moi. J'ai travaillé déjà avec des gens, puis on n'avait pas tous la même position nécessairement. La réalité, c'est que pour chaque position, je vais vous trouver des questions que vous ne pourrez pas répondre. Pour chaque position, il y a des versets qui semblent dire ça en plein, puis il y a d'autres versets où tu es comme, je ne sais pas quoi faire avec celui-là. Il y a des défis pour chaque position. Il y a des forces et des faiblesses dans chaque position. Moi, j'ai adopté une position et je mourrai peut-être pas avec celle-là, mais je n'éviterai pas les passages prophétiques. Je les prêcherai. Je l'ai déjà fait. On ne jouera pas à cachette, mais ce ne sera pas un sujet de division dans l'Église. Autant que ça dépend de moi. Oui.
Juste peut-être pour conclure, je pense que je savais la réponse, mais c'était surtout pour susciter ces questions-là et peut-être faire le commentaire suivant. Je pense qu'au minimum, comme Église, il y a beaucoup d'ignorance dans le domaine à cause qu'on a délaissé.
Oui, tout à fait.
Et au minimum, on se devrait d'étudier les diverses positions, les pour et les contre de chacun. Et je vais être le premier à avouer que des pour et des contre.
Et ça pourrait même être quelque chose qu'on ferait en église éventuellement. Peut-être que, admettons, un mardi soir ou quelque chose pourrait être un lieu pour faire ça. Si vous voulez plus de détails sur ce que moi je crois, il y a, je pense, deux pages ou trois qui sont dédiées à ça dans ma confession. Alors, allez lire ça. Là. Oui. Oui, excuse-moi, j'ai pas répondu à la deuxième question. Vas-y, recommence.
Non, je voulais juste commenter sur moi, ma question. De transmettre la volonté du Seigneur avec les forces et faiblesses que le Seigneur nous donne. Ce que j'ai apprécié beaucoup aussi, c'est de savoir que chacun a un rôle et chacun doit apprendre à se développer pour mieux supporter l'ensemble de l'équipe. Et pour moi, ça, c'est un gros plus.
Et si ça peut rassurer concernant l'âge, là, vous connaissez certainement la plupart d'entre vous des pasteurs dans notre association qui ont du mille âges, puis qui ont fait leurs preuves, etc. La plupart ont commencé plus jeunes que moi. Juste pour dire que Dieu travaille, il fait grandir les gens. Alors, Michel.
Oui, dans toute l'église, il y a des jeunes. Des gens, c'est basé. Et au niveau, par exemple, pour prendre mon exemple, ça a mentionné quoi que ce soit. Je fais un faux pas, je fais quelque chose, il n'est pas correct, c'est remarquable, c'est pas correct, quelqu'un le sait, tu le sais. Est-ce que tu vas avoir assez de courage? Je pense avoir la réponse, mais c'est pour justifier comme il a senti aussi. Est-ce que tu as assez de courage pour aller voir la personne pour en fait régler le problème qui est inacceptable dans l'église?
La première réponse, c'est que c'est mon désir le plus cher d'avoir non seulement assez de courage, mais assez d'amour pour faire ça. D'aller reprendre quelqu'un. Dans ce que tu as mentionné, tu as dit quelqu'un fait quelque chose de mal, quelqu'un d'autre le sait, etc. Il y a un processus là, très explicite dans la parole pour comment reprendre quelqu'un, le processus de discipline dans l'église. C'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup. Et même si moi, de mon propre chef, je n'ai pas eu à faire ça très souvent dans l'église, entre frères, avec des gens de mon entourage, oui, mais pas en tant que pasteur. J'ai participé, mais j'ai pas eu l'occasion souvent de prendre l'initiative d'aller voir un frère ou une sœur, puis de confronter le péché, puis d'exercer la discipline en tant que pasteur d'une église. Alors, c'est pour ça que je réponds, c'est mon désir le plus cher. Je veux faire ça. Ce serait te dire ce que je sais pas si je te disais je sais que je vais le faire, parce que je l'ai pas fait beaucoup encore. Je sais pas, de mon propre chef, prendre l'initiative, dire c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, j'ai pas encore eu cette expérience là. J'ai participé, comme j'ai dit, mais je crois fortement dans ce que la Bible nous enseigne sur la discipline dans l'église, et je crois que c'est une condition à la santé de l'église aussi. Alors c'est ça ma réponse. Jean-Pierre, et ensuite Liliane.
Question à Liliane. On a parlé beaucoup
Ben, j'ai l'impression que mon rôle change et en changeant d'église et aussi en devenant maman. Avant qu'on se marie, je suivais Tim un peu partout dans tous les ministères, puis on faisait plein. Ben, je pouvais faire plein de choses depuis qu'on a des enfants, surtout depuis qu'il y en a plus qu'une. C'est difficile de les traîner à la jeunesse et tout ça. Ça fait que mon rôle change, je trouve, avec les périodes de vie. Là. J'imagine que je vais redevenir un peu plus libre dans 20 ans. Mais comme la réalité, c'est que c'est ça, ça prend beaucoup de mon temps d'être maman. Mais mes forces, je pense que le Seigneur m'a donné un don pour organiser et mettre en place. C'est beaucoup ce que j'ai fait avec l'école du dimanche à l'église de Gatineau. Puis c'est ce que les gens disaient qu'ils voyaient en moi. J'aime aussi beaucoup enseigner les adolescentes filles. C'est pour ça que je l'ai fait pendant 4 ans. J'aime investir puis faire du coaching. Je suis pas vraiment une personne de gros groupe. Là. Ça, c'est pas ma force. C'est la force de Tim. Je suis plus introvertie, puis j'aime plus travailler avec une ou deux ou trois personnes. Ça, c'est plus ma force. Fait que je l'ai fait avec des adolescentes puis avec des jeunes femmes là, dans le passé. Puis voilà, ça, c'est plus ce que je pense qui est ma place. Puis j'apprends à être la femme de pasteur, puis tout ce que ça implique, là, comment aider Tim, comment... voilà. Mais je suis encore en train d'apprendre tout ça. Là. Je trouve que notre rôle a beaucoup changé en changeant d'église, parce que l'horaire de Tim change, fait que mon horaire change aussi, puis ses responsabilités changent, fait que les miennes aussi avec le temps. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond.
Yann est... Moi, je vais continuer parce qu'elle ne va pas tout dire, là, mais... Yann est... Oui, elle est très organisée, très, très structurée, très efficace dans ces choses-là. Mais c'est aussi quelqu'un qui est très doux, qui est capable d'écouter quelqu'un, puis qui va jamais balayer ça du revers de la main en disant « Dénaisse-toi avec tes affaires, là, prends-toi en main, débrouille-toi. » Quelqu'un de doux, qui est capable d'accompagner quelqu'un, de prodiguer des conseils, de... Et aussi une autre chose de Liliane, une qualité de Liliane, c'est qu'elle est délibérée, elle n'est pas impulsive à se précipiter dans quelque chose sans y penser pour ensuite laisser tomber parce que finalement c'était pas une. Non, elle va prendre le temps d'y penser, puis quand elle va s'investir dans quelque chose, ça va être avec réflexion, en ayant pesé le pour et les contre, en ayant pris en considération les obstacles. Et ça, c'est vraiment une force dans notre couple aussi, qu'elle ait cette qualité-là. Si on fait juste les qualités de Liliane, on va skipper le dîner. Là, mais... Liliane. Carmen.
Mm-hmm.
Pour les bonnes raisons. Mais je vais juste rebondir un instant là, là-dessus, c'est que ça c'est un des sujets de joie et d'encouragement pour nous de voir la jeunesse ici. Moi quand j'ai commencé à penser à Castleman, là, j'en connaissais 4 des jeunes, je pense, 4 ou 5 peut-être, ou en tout cas j'étais pas sûr là. Mais réalisez-vous qu'un quart de l'église sont comme 14-21, un quart de l'église, ça veut dire que l'église va être... Il y a un poumon, il y a de la vie là, dans les prochaines années. Il y a des églises de campagne comme celle-ci là, qui n'ont pas de jeunesse. Et ils ne savent pas ce que l'église va faire à part juste vieillir avec les gens puis qu'ensuite il n'y aura plus rien. C'est une richesse, une bénédiction. Puis pas juste ça, les jeunes, je leur ai dit hier, là, on n'est pas en train de se battre avec des jeunes récalcitrants qui nous donnent du fil à retordre puis des bâtons dans les roues, puis tout ce que tu veux. Ils veulent, ils sont là, ils sont attentifs, ils sont voulants. C'est une bénédiction vraiment la jeunesse à l'église.
Excuse-moi, j'ai oublié, j'ai parlé de jeunes adultes, puis je sais que Timothée rencontre Jean-Michel régulièrement aussi dans un rôle d'ami et de mentor en même temps, qui l'inspire à marcher avec le Seigneur, tout ça. Alors, donc, chez les jeunes, mais aussi les jeunes gens, ouais. Des jeunes adultes. Donc, c'est édifiant de voir ça.
Puis Dieu voulant, j'aimerais que quelque chose comme ça soit en place pour pas juste Jean-Michel, mais le reste de la gang.
Vous aviez déjà un lien.
Oui, on se connaissait.
Ouais.
Ça a parti à ces liens-là. Ouais. Qu'est-ce que quelqu'un d'autre avait. Oui,
Marc. Comment voyez-vous l'importance de la vie de couple, la vie de famille, puisque vous êtes en couple et Dieu en parle.
Pardon? Ouais, Liliane esquive son tour avec plaisir quand il y a une foule devant. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on néglige la famille, on est en train de mettre une croix sur le ministère. C'est ça l'ordre des choses pour moi. C'est pas pour moi. La Bible dit, il faut d'abord que l'homme soit capable de tenir sa maison en ordre pour ensuite aspirer à tenir la maison de Dieu en ordre. Les critères pour un pasteur, c'est d'être marié d'une seule femme, qu'il élève ses enfants, puis que le couple détermine le caractère de la personne. Alors, c'est pas juste lié, c'est que mon ministère dépend même de ma vie familiale et de ma vie de couple. C'est très difficile à mettre en place, c'est très difficile à respecter au fil des journées puis des semaines, mais ma famille est ma priorité. Parce que si je néglige ma famille, dans quelques mois ou dans quelques temps en tout cas, je ne pourrai plus faire le ministère. Alors, comme je dis, c'est un défi. Pour tous les gens avec qui j'ai parlé dans le ministère, c'est un défi de prendre le temps qu'il faut pour s'investir dans la famille, donner le temps à la famille, leur donner la place. Et Mais c'est primordial. C'est... Oui, Sylvain. Bien. Et puis comme je rebondis là, priez pour nous aussi. Puis j'apprécie ce que tu dis, Sylvain, parce que dans notre transition, une des conséquences, c'est qu'on se coupe des gens qui étaient proches de nous avant, géographiquement en premier, mais les relations subissent ça. Alors les gens qui faisaient ça avant sont plus autour de nous, ou moins. Alors, on a besoin de ça maintenant aussi. Oui. Oui. Puis c'est un peu égoïste, mais au moins c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. L'assemblée qu'elle prie pour son pasteur. On en a besoin, on en a besoin. Quelqu'un d'autre? Oui, oui, Daniel. Oui, ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. Si je vous ai envoyé un email, c'est seulement comme ça que c'était signé. Ça fait bien des années que les gens m'appellent comme ça. Je suis très à l'aise. Ça va me faire plaisir si vous m'appelez comme ça. Ouais, c'est ça. Vous allez apprendre à me connaître, là, j'ai le dos large. Là. Si Yvon Pierre dit ça, ça en veut dire ça. J'ai grandi avec la grâce de Dieu, puis je suis quelqu'un d'un peu plus calme que j'étais, mais je suis un bon vivant de nature, vous allez le découvrir assez vite. Là, ça sort assez vite si je passe un peu de temps avec vous autres. Je ne suis pas toujours sérieux comme ça. Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre, bonne idée. Dans la dernière année à Gatineau, il y a Normand Joseph qui est venu se rajouter sur l'équipe pastorale. Normand est un des pasteurs dans l'association qui a à la fois le plus d'ancienneté, le plus de, ou en tout cas il a fait beaucoup d'études, plus que la plupart des pasteurs. Il enseigne régulièrement, un homme qui est une référence au Québec pour la prédication. C'est lui qui enseigne la prédication aux pasteurs au Québec. Il s'est formé pour ça, c'est une référence. Il est venu se joindre à l'équipe et ça a enrichi beaucoup l'équipe là-bas. Avec sa venue, il y a eu des restructurations. Comme je dis, il y a toujours une sorte de spécialisation qui suit de ça. Moi, à cause de mon âge, de mon implication dans les années précédentes et tout ça, j'ai pris une plus grande part dans le travail auprès de la jeunesse. Et... je continuais à partager la prédication avec lui, il me laissait le faire avec lui, avec grâce. Et ça a été une période de remise en question pour nous, parce que même si j'aime travailler avec la jeunesse, c'est pas ça que je voyais comme... C'est pas ça que je visais, je veux pas être pasteur jeunesse à la vie, c'est pas mon ambition. C'est pas ça que je désire, c'est pas ça que Dieu travaille dans mon cœur depuis des années. C'est le pastorat, point finalement, y compris la jeunesse, c'est ce que je fais ici en réalité. Et puis aussi la vision de l'Église, la manière que l'Église grandissait, la direction qu'elle prenait, On a une, moi, je faisais partie du conseil. On avait des discussions très franches. Là, on avait des idées différentes, des projets différents, des visions différentes d'église qui sont bonnes d'un côté et de l'autre, mais dans laquelle moi je me voyais moins fitter. C'était moins naturel pour moi de fitter dans une vision d'église comme celle-là. Et puis il y avait aussi, comme j'ai mentionné tout à l'heure à Charles, ce fardeau pour les églises qui n'ont pas de pasteur, un contexte d'église qui serait plus petit, qui me permettrait d'être, comme on dit dans le jargon du milieu, une sorte de pasteur généraliste qui toucherait à tout, puis qui expérimenterait un peu tout, qui n'est pas vraiment faisable dans une église de 400 personnes. Toutes ces choses-là ont enclenché une réflexion, une remise en question. On ne savait pas vraiment ce que Dieu avait en réserve pour nous dans les prochaines années. Là. Puis, on a discuté longtemps avec Liliane, puis ce qu'on a dit, c'est on ne sait pas ce que Dieu en réserve. Ce qu'on n'avait pas considéré jusque-là, on le considère maintenant. Peut-être que Dieu veut nous envoyer ailleurs. Peut-être que Dieu veut nous utiliser ailleurs. Puis maintenant, on est prêt à considérer ça. Parce que moi, quand j'ai commencé à Gatineau, je leur ai dit, à moins que Dieu dirige, je prends ma retraite ici, je vais être heureux. Puis je n'ai pas de projet de changer d'église, tu sais, à tous les 3 ans ou quoi. Mais là, nos réflexions nous ont amenés là. Puis on était en questionnement, on ne savait pas vraiment ce que ça allait donner. Et puis à ce moment-là, le téléphone a sonné. Donc, puis, pardon? Oui, je l'ai annoncé au conseil. J'avais parlé avec les individus de cette réflexion, des défis qui venaient, puis des questionnements. Puis là, on est arrivé à cette conclusion. Je l'ai annoncé au conseil. Et puis, la même semaine que je savais pas quoi, mais que je sentais que Dieu nous dirigeait vers quelque chose d'autre. J'avais des idées vagues en tête. Je parlais d'une plus petite église, je parlais d'un rôle plus généraliste, etc. Et quand j'ai fait cette annonce au conseil, à ce moment-là, le conseil de Castleman a contacté l'église, a contacté le conseil de Gatineau en disant « Voilà notre situation, je ne sais pas exactement quelle a été la conversation, mais finalement, ça a fait un... on est tombés ensemble, là, puis ça répondait exactement d'un côté puis de l'autre, le timing était parfait. On a vraiment vu comment Dieu a dirigé là-dedans. Nous, on se dirigeait vers quelque chose, on ne savait pas quoi, puis Dieu nous l'a emmené vers nous avant même qu'on ait le temps de chercher plus loin finalement. Puis moi, j'étais réticent. La prochaine étape, juste pour vous ayez le contexte vraiment, la prochaine étape pour moi, c'était de contacter Michel Habib, qui est le directeur pastoral de l'association. Lui, il connaît toutes les églises, il connaît la situation de toutes les églises et il connaît les besoins de toutes les églises au Québec, en tout cas dans notre association Québec et Est de l'Ontario. Et si moi, je donne mon nom en disant, écoute, on veut servir, on ne sait pas où est-ce qu'il y a un besoin, il y en a beaucoup des besoins, il y a beaucoup d'églises qui cherchent des pasteurs. Et vous le savez parce que ça fait 2 ans, je pense, que vous avez cherché un pasteur. Et avant d'arriver à cette étape-là, moi, j'étais un peu réticent. Parce que je ne veux pas comme m'offrir sur le marché du travail, dans un certain sens, à recevoir plein de téléphones, puis de devoir choisir où je dois aller. Je vais-tu à Sept-Îles, puis à Chibougamau, à Fermont, à Longueuil, à je ne sais pas. Tu sais. Puis Dieu a permis que ça ne se passe pas de cette manière-là, finalement. Il y a une église qui a appelé, puis ça correspondait à ce qu'on croyait que Dieu nous dirigeait. Puis... 2 jours après, j'appelais Michel, puis on recevait des téléphones à appel. Dieu a vraiment dirigé là-dedans. On est reconnaissant comment les choses se sont déroulées. Quelqu'un d'autre? C'est bien, ça veut dire que les questions ont été répondues.
Une question?
Oui.
Comment ça fonctionne?
Et d'ailleurs, dans les prochaines semaines, avant le vote, s'il y a des questions qui viennent, vous gênez pas, vous savez comment me contacter, ça va me faire plaisir là,
parler avec vous. Fait que, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
Le commencement aussi,